Okay. Dans cette édition, on parlera de Mathieu Juncker qui revient de 240 jours en autonomie sur un atoll des Tuamotu, de ce débat autour des peines des trafiquants d'ICE et enfin de cette compétition de bodybuilding. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
À la une ce mardi, la fin d'un périple d'un Robinson Crusoe scientifique.
Oui, son nom c'est Mathieu Juncker et vous l'aviez peut-être entendu sur nos ondes. Ce biologiste calédonien, grand amoureux de la mer et déjà fin connaisseur du fénois, était alors passé sur notre plateau en avril l'année dernière, juste avant d'embarquer vers les Tuamotu du centre. Son objectif était alors de passer 8 mois en autarcie sur un atoll inhabité pour récolter au plus près de l'écosystème de précieuses données de recherche. Eh bien, ce périple a pris fin la semaine dernière avec un peu de retard puisque le père de famille a dû interrompre son isolement pendant quelques semaines pour aller auprès de sa famille à Nouméa au moment des émeutes. Mais Mathieu Juncker a bien réussi son pari, 240 jours au total, seul sur cet atoll dont il préfère taire le nom. Sur place, il n'y avait que lui, un petit faré surélevé, un petit trimaran à voile pour aller explorer le lagon de 600 km², ainsi qu'une bonne dose de matériel de survie et d'observation scientifique. Et le biologiste décrit un environnement en mouvement permanent, les bancs de sable qui bougent au gré des coups de vent, une nature qui évolue constamment, difficile de garder des repères sur le long terme, explique-t-il.
Il n'y a rien de plus stable, enfin, à mon sens, finalement, qu'un paysage. Sauf que ces îlots qui sont à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer, en fait, sont tous les jours quasiment remodelés par la mer. Et c'était également de voir qu'un oisillon, enfin, un poussin qui avait éclos la veille et qui, en fait, était tellement vulnérable, fragile, je veux dire, étendu sur la branche, le lendemain se tenait debout, prêt à manger un poisson que lui tendaient ses parents. Donc, c'est assez extraordinaire. Et en même temps, c'est perturbant, en fait, de voir que, voilà, tout était mouvement, tout était effectivement dynamique autour de moi.
Voilà, un environnement dynamique. Il s'agissait donc d'observer. Mathieu Juncker avait fixé ses objectifs, compter et observer les habitudes des oiseaux marins, notamment le très menacé Titi, qui n'existe plus que sur quelques motus et dont la population semble avoir été divisée par 3 en 20 ans. Il s'agissait aussi de mesurer l'érosion du rivage, la hauteur de la houle qui submerge parfois les motus, et de surveiller la santé du récif tout proche. Des dizaines de milliers de relevés et de données qui ont déjà commencé à être transmises mise à l'Office français de la biodiversité, à la commune et aux propriétaires du foncier, tous partenaires de l'opération, ainsi qu'à la DIREN qui a autorisé ces observations. Pour le biologiste, ces informations doivent interpeller sur la fragilité des atolls face aux changements climatiques et aux activités humaines.
Aujourd'hui, la récurrence de ces pressions, l'augmentation de ces menaces qui sont liées, encore une fois, à des événements un peu extrêmes au niveau météorologique ou à des pratiques qui vont consister finalement à dévégétaliser, c'est-à-dire à arracher le couvert végétal qui lui-même tient en fait le sable. Et on sent bien que cet équilibre, ben, il est très fragile et qui peut être à un moment basculé. On peut arriver à un point où le motu ou l'atoll peut avoir du mal à être résilient finalement malgré des dizaines de millions d'années. On pourrait très bien imaginer que le drame arrive en fait dans un contexte de changement climatique et avec des pressions humaines qui s'exercent.
240 jours en autarcie, beaucoup d'images de découvertes et encore des projets. Un documentaire sur son périple est en préparation. Son carnet de bord pourrait donner un livre. Des rapports scientifiques doivent être formalisés dans les prochains mois et du côté des Tuamotu, son passage a déjà eu une répercussion. Les propriétaires fonciers de cette île et de l'atoll voisin ont formé une nouvelle association pour prendre ensemble des mesures de protection de la faune et de la flore. Il s'agit notamment de lutter contre les rats et pourquoi pas de limiter les accostages des bateaux de passage.
On continue avec ce débat sur les peines prononcées contre les trafiquants d'ICE.
Oui, à entendre Moeta Ibroverson, elles ne sont pas assez dissuasives, ces peines. Le président du pays a relancé le débat alors qu'il annonçait un plan d'envergure de lutte contre l'ICE. 250 millions de francs seront débloqués au prochain collectif budgétaire à l'Assemblée et il demande à l'État de mettre la même somme, mais surtout d'augmenter les peines des trafiquants. Pourtant, à l'occasion de l'officialisation d'un nouveau plan d'action de la sécurité du quotidien, le haut commissaire a assuré que l'effort de répression était déjà au maximum. Les peines sont déjà plus lourdes ici qu'ailleurs en France en matière de stupéfiants. Alors les augmenter encore, les propos de Moeta Ibroverson interpellent du côté du barreau de Papeete.
Du côté de la défense, ce qu'on constate, c'est qu'au fil des ans, les peines s'alourdissent de plus en plus, petit à petit, mais que le trafic, lui, continue toujours autant. Et on sait, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que la sévérité en elle-même ne suffit pas à arrêter un trafic. Ce qu'il faut derrière, c'est des moyens pour désintoxiquer les gens. Il faut mettre en place des centres de désintox, donner les moyens à la direction de la santé de pouvoir mener à bien ce genre de mission. C'est pas uniquement sur les peines.
Maître Tere Moana Elek, que vous venez d'entendre, insiste au passage, les seuls à même d'estimer les peines les plus adaptées sont les magistrats du siège, des magistrats qui n'ont pas d'ordre à recevoir du pouvoir exécutif. Et puis c'est la détention aussi qui est venue au centre du débat. Certains regrettent le soi-disant confort de la prison. Un débat dans l'Hexagone aussi, avec cette interdiction de toutes les activités ludiques en milieu carcéral. La perspective de passer quelques années à Tatoutou avec salle de muscu et cinéma ne fait peur à personne, avait même dit Moeta Ibroverson lors de ses vœux au CESEC il y a quelques jours, ce qui n'est pas du tout l'avis de Maître Elek.
Quand on veut que les gens se réinsèrent, on évite de les traiter comme des animaux. Noutania, qui a été élue la pire prison de la République dans des conditions parfaitement indignes, est à 120% d'occupation au minimum. Tatoutou, on arrive à 80-90%. On aura beau dire que c'est le grand luxe, etc. Ce sont juste des conditions normales. Et ce sont les conditions normales de détention qui facilitent justement la réinsertion et qui évitent la récidive.
Même son de cloche du côté de Maître Benoît, pour qui parler d'une prison et dire que c'est du luxe est complètement invraisemblable pour les deux avocats qui ont vu passer des dizaines de trafiquants dans leur carrière. Il n'y a aucun doute, la lutte contre l'ICE doit passer par autre chose que seulement de la répression.
On reste dans l'actualité judiciaire avec les assises.
Troisième et dernière journée du procès pour infanticide et la journée a débuté par une visioconférence avec un psychiatre. Celui-ci, comme ses confrères psychologues entendus la veille, a insisté sur la normalité de l'accusé et sur son égocentrisme. Il note que l'homme se positionne comme une victime de la situation. On vous le rappelle, ce père de famille est accusé d'avoir étranglé son enfant de 3 ans. L'homme, on dit aussi qu'il a une totale absence d'empathie, mais que ce n'est pas un psychopathe. Il affirme que par son crime, il voulait atteindre sa compagne, comme la majorité des hommes auteurs d'infanticide. L'accusé, lui, maintient sa défense, qui n'a pas varié d'un iota depuis le début. Il est persuadé que sa compagne se prostituait pour acheter de l'ice, et donc il ne pouvait pas laisser son enfant dans cet environnement, et il n'a rien à rajouter. La partie civile, de son côté, estime que la préméditation ne laisse pas de place au doute. Elle demande des réponses pour la famille, une famille qui se sent coupable, rongée par le remords, contrairement à l'accusé. Même constat pour l'avocate générale qui assure que l'accusé voulait tuer son fils et que c'était un acte réfléchi depuis plusieurs semaines. Elle a requis 30 ans, assortie d'une période de sûreté. Le verdict est attendu en fin de journée.
800 personnes qui cherchent un travail et 15 à 30 postes à pourvoir.
Et une grosse pagaille à la mairie de Teavaro à Morea hier. Le job dating organisé par le groupe Mantovani des enseignes Tahiti Pas Cher, Tahiti Maison Déco et Gémeaux a tourné court. Trop de monde et seulement 8 recruteurs sur place. Impossible d'absorber ces 800 candidats. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. Certains ont dénoncé un manque de préparation et un lieu trop petit. D'autres ont regretté le manque de communication. Le directeur général du groupe, Jérôme Galine, leur répond.
Nous, on ne va pas rentrer dans la polémique. On remercie déjà la commune de nous avoir prêté une salle et on remercie les personnes qui sont venues. Après, il était difficilement imaginable de voir autant de personnes venir candidater. Donc, on les remercie encore d'être venus et on sait désormais de quelle manière on va pouvoir justement gérer les choses sur la prochaine session.
Et donc une prochaine session qui est prévue d'ici le mois de mars. Quant au chantier de construction des nouveaux magasins Gémeaux et Tahiti Pas Cher sur Morea, il avance bien. La direction dit vouloir ouvrir dans les meilleurs délais.
Cette actualité santé maintenant, Lucie, le pays veut relancer les évacuations sanitaires en Nouvelle-Zélande.
Plus proche et donc moins cher, sans compter la proximité culturelle, le gouvernement veut retisser les liens médicaux entre le Fénoua et Aotearoa. Des liens qui se sont fragilisés depuis la pandémie de Covid. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, est actuellement en mission à Auckland et il souhaite renforcer cette collaboration entre les deux pays sur deux domaines, la médecine pédiatrique et la cardiologie. Le ministre a aussi parlé de possibilité de suivi des greffés du poumon à Auckland. Une mission néo-zélandaise viendra au Fénoua en octobre prochain. Et Cédric Mercadal doit également rencontrer des personnes du ministère néo-zélandais de la Santé. Il veut s'inspirer des politiques anti-tabac là-bas pour une loi du pays ici qui est attendu au cours de la prochaine session administrative.
Du sport maintenant, une première épreuve de bodybuilding dédiée aux teenagers se prépare.
Oui, après le succès de la Teen On Week Contest, un événement très attendu chaque année par les bodybuilders du Fénois, Manu Buchin veut innover et le gérant de Gym Zone organise une nouvelle épreuve, la Teen On Week Contest Teenagers, une compétition de bodybuilding réservée aux jeunes de 16 à 21 ans qui aura lieu en juin. Une seule catégorie sera proposée pour cette première, la Men's Physique, une épreuve où les athlètes se présentent sur scène en short et torse nu. élus. L'occasion de se mesurer entre eux et de prendre confiance. Pour Manu Buchan, cette compétition sera un tremplin pour repérer et accompagner les futurs talents en vue des prochains Jeux du Pacifique.
Nous pensons à la relève, hein, puisque nos champions actuellement en plein de l'âge, donc il est souhaitable qu'on puisse mettre en place ce genre de compétition pour que nos jeunes puissent plus tard prendre le relais. À l'issue de cette compétition Ninja, les meilleurs pourront faire partie de la compétition que nous organisons sur Bora, vers le mois de septembre. Donc ils auront l'occasion de se mesurer aux meilleurs du plateau actuel, seniors, vétérans.
Pour les aider à se préparer, des séances d'initiation aux poses sont déjà prévues. Le champion de bodybuilding Brian Gobray leur donnera des cours et la compétition pourrait même s'ouvrir aux féminines si jamais il y a de la demande. Les inscriptions, elles, s'ouvrent à la fin de la semaine et Manu Buchan espère rassembler entre 10 et 20 participants pour cette première édition.
On termine avec de la culture. Le festival TVVO commence demain.
Oui, 5e édition de ce festival organisé par la compagnie du Caméléon. Pendant 3 semaines, un spectacle vivant est joué à 4 reprises. Un film est projeté et 2 débats sont organisés, l'un après le spectacle et l'autre après la projection du film. 3 thèmes cette année, la parole, le pouvoir et le rapport de l'homme à la machine. Et ça commence demain avec la pièce Le village des sourds, une pièce écrite comme un conte par Léonore Confino qui traite de la perte du langage. Ariana Suellen-Rivoire, comédienne sourde, donne la réplique en langue des signes à Jérôme Kircher. On y parle d'un commerçant, de mots qui sont à vendre et d'une langue qui s'appauvrit pour finalement disparaître.
Avec l'arrivée des réseaux sociaux et des téléphones, on avait l'impression que notre champ lexical vraiment diminuait énormément. Quand on manque de mots, la pensée devient plus simple. Et d'ailleurs, on le voit et le monde nous pousse à ça. Et la nuance dans la pensée aujourd'hui, c'est vraiment presque un acte de résistance.
Catherine Schaub, que vous venez d'entendre, met en scène cette pièce. Elle explique qu'elle fait écho à l'actualité du moment. Pour elle, de moins en moins de mots, c'est de moins en moins de réflexions ou de nuances.
Le problème, c'est qu'on nous demande d'être radical. Il faut choisir son camp. On est sur du j'aime, j'aime pas, d'accord, pas d'accord. Alors qu'en fait, ce qui est radical aujourd'hui, c'est la nuance. C'est d'arriver à argumenter pour justement nourrir un débat. Et les mots sont aussi un pouvoir. C'est-à-dire que quand on ne peut pas nommer ses pensées, quand on ne peut pas s'exprimer, quand on voit par exemple la langue de Trump, c'est fascinant les mots qu'il emploie. Il y a une personne qui s'appelle Bérangère Viennot qui a écrit un livre là-dessus.